Pastoureaux et pastourelles, bien le bonjour. Vous avez longuement voyagé, n'est-ce pas? Je vous attendais avec impatience. Vite, prenez place et mettez-vous à l'aise. Je suis votre hôte, Gabriel Côté. Diplômé en études médiévales et en archivistique, j'aime partager ma passion au passant. Je vous propose aujourd'hui de faire un saut dans le temps, de revoir le Moyen-Âge à travers une loupe moderne, une loupe plus féministe. Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis. Pastourelles et pastoureaux, bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 19 de Ad Medievum Aeternum. C'est votre hôte, Gabriel, et il me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Mes chers amis, avant qu'on commence, j'aimerais juste vous mentionner que l'épisode sur les reines meurtrières Brunéo et Frédégonde est en cours et qu'il sera disponible la semaine prochaine sans faute. Je m'en excuse, dans les deux dernières semaines, j'ai été très occupé. Je suis présentement en entrevue pour un nouvel emploi parce que mon contrat au centre des services scolaires se termine. Donc, c'est un peu à la recherche d'un emploi, plusieurs entrevues. Donc, je suis assez occupé. Mais c'est juste pour vous dire que je n'ai point oublié cet épisode que j'ai très hâte de vous présenter parce qu'on va parler de deux femmes absolument phénoménales qui ont eu un rôle majeur dans la dynastie mérovingienne. Mais aujourd'hui, quand même, je voulais vous présenter quelque chose, un épisode par semaine, et surtout qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Avant d'aller plus loin, je vais en profiter en fait pour saluer les gens en France, en Suisse, en Belgique, qui m'écoute, vous êtes en grand nombre, ça me surprend beaucoup, mais sachez-le, ça fait extrêmement plaisir d'avoir des membres de la francophonie de l'autre côté de l'océan qui nous écoutent, c'est hyper apprécié, je vous salue chaleureusement, et j'espère que aujourd'hui, le 1er mai, dans vos pays respectifs, il fait aussi chaud qu'au Québec, parce que aujourd'hui, on va parler de la chaude journée de mai, le 1er mai, qui est une journée très spéciale. Vous le savez peut-être pas, ça fait longtemps qu'on l'a fête plus, mais aujourd'hui, c'est Beltane. Beltane est une fête celtique qui a été longtemps célébrée et qui concorde, pardonnez-moi, avec la fête Valpurgis qui était célébrée par les Germains, par les Scandinaves. C'est un peu un équivalent, dans le fond, ça se situe à la même date. Mais pendant de nombreux siècles, voire millénaires, les Celtes, les Germains, les Scandinaves, les peuples de l'Europe en général, et ça c'est pas exclusif aux peuples européens, là vous allez dans n'importe quelle civilisation, on a souvent des fêtes reliées à la nature qui se rapprochent justement avec les cycles des saisons, et le 1er mai, c'est le début de l'été, en fait on comprend que c'est pas le début de l'été sur nos calendriers actuels, mais là, comme on le voit aujourd'hui au Québec, le temps se réchauffe beaucoup, le printemps plus froid est derrière nous, l'avril est derrière nous, donc c'est la saison du renouveau, c'est la saison des bourgeons, la nature revient, c'est la saison des amours, le beau temps est devant nous, le pire est derrière, en l'hiver qui était très difficile à l'époque. Maintenant, c'est le temps de commencer les nouvelles plantations, c'est le temps d'avoir l'abondance. Donc, vous voyez un peu en quoi la fête Beltane, ou en allemand Walpurgis, avait comme objectif. Maintenant, d'où est-ce que ça vient? Ben là, c'est là que ça devient un peu plus touché. On sait que c'est une vieille fête celtique, mettons Beltane, on sait que ça venait surtout des Gaëls, mais on estime que tous les peuples celtiques la vénéraient à sans vouloir dire à la date près, mais dans les mêmes environs, étant donné que les anciennes fêtes païennes suivaient énormément le cycle des saisons. Beltane, d'ailleurs, c'est la deuxième fête la plus importante avec Samhain. Je le prononce toujours très mal, mais Samhain qui est un peu dans le fond... En fait, c'est notre Halloween. C'est la fête des morts chez les Celtes. Ça s'est transformé chez nous à l'Halloween. Ça fait partie des deux fêtes principales, des Celtes. À l'inverse, les Germains, eux autres, dans leur perspective... Là, c'est sûr que il y a des sources qui mentionnent très brièvement que c'est peut-être les plus importantes. On estime que, on croit que, mais encore une fois, je veux le mentionner avant même d'aller plus loin, j'aurais dû le faire avant, je m'excuse, mais vous le savez un peu déjà, pour ceux qui m'écoutaient régulièrement, tout ce qui est tradition, surtout quand on remonte aux vieilles civilisations européennes, là, vraiment, ça peut remonter jusqu'à moins 3000. On n'a pas vraiment une idée très claire de comment c'était célébré. Hein. Avec la christianisation, beaucoup des anciens mythes païens ont été christianisés et se sont perdus avec le temps. Il n'y avait pas toujours des sources écrites à l'époque, il y en avait très rarement. Il n'y a pas de manuel comment la célébrer, il n'y a pas une façon de le faire. On a juste un peu de vieilles traditions qui survivent jusqu'à aujourd'hui et on peut faire des approximations. Donc, quand une source, ben, encore une fois, une source, c'est des très maigres recherches que j'ai fait aujourd'hui, je vous le mentirai pas, mais c'est souvent amené de l'avant comme une des fêtes les plus principales chez les Celtes, mais gardez toujours ça avec un grain de sel parce que personne n'était là il y a moins 3000 et ils n'ont pas laissé d'écrits. D'ailleurs, les Celtes n'écrivaient pas, hein, ils avaient une forme de d'écriture qui s'appelait logam, qui est dans le fond un système avec, si vous voulez, une longue tige avec des encoches à différentes intersections pour servir en fait d'écriture. Mais les Celtes n'écrivaient pas parce que ceux qui gardaient le savoir, c'était les druides étant les prêtres, seulement des hommes. Chez les Celtes, c'était seulement les hommes, à l'inverse de chez les Germains, où c'était souvent des femmes qui administraient le rite religieux. Et bon, les Celtes sont très proches dans leur religion et dans leur culture de la nature. Et écrire, dans leur conception, c'était quelque chose de mort. Donc, quand on écrit quelque chose sur la pierre, ça ne bouge pas, ça ne vogue pas au vent, ça ne grandit pas, ça ne bourgeonne pas. Ce n'est pas comme la parole qui s'envole dans le vent et qui va porter sa sagesse à une autre oreille. Donc, les druides transmettaient leur savoir de tradition orale, parce que oralement, c'était beaucoup plus vivant. Et ce qui n'est pas, en fait, ce qui est mort n'est pas celte. Donc, c'est pas une question que c'était une incompétence, il y avait une raison religieuse pourquoi le savoir des druides était transmis de façon orale, parce que l'écriture était vue comme quelque chose de morte et donc non naturel. Mais bon, là, j'ai fait une immense parenthèse, mais juste vous parler que quand je vous dis, bon, encore une fois, Beltan et Samhain sont, dans certains cas, montrés comme étant les deux fêtes les plus importantes du cycle païen de ces peuples. À l'inverse, les Germains et les Scandinaves, ça serait plutôt Yule, qui est un peu notre Noël, dans le fond, et Midsommar, qui se donne le 25 juin, qui est donc le solstice d'été. Donc, on peut voir ici que, bon, ces peuples, en fait, avaient des fêtes qui suivaient le rythme des saisons, et c'est très normal, parce qu'à l'époque, on vivait au rythme des saisons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Beltan? Bon, encore une fois, je le mentionnais, je suis désolé, je me répète, mais encore une fois, il n'y a pas de source officielle du comment, pourquoi, comment c'était fait dans le temps. On a des fois certaines légendes qui nous parviennent, certaines traditions qui ont perduré, mais on peut pas savoir à 100%. D'ailleurs, juste un petit exercice, vous rappelez que Beltan, de la façon qu'il a fêté peut-être en 800, c'est probablement différent qu'il a fêté, par exemple, en moins 1500. C'est des vieilles fêtes, on assume qu'étant donné qu'ils sont au rythme des saisons, ils ont probablement une très longue, longue origine. Hein. Cependant, à l'inverse, faut pas s'imaginer que parce que ces religions-là, et là je dis le terme païen, là, même païen ça veut rien dire, là, les anciennes religions polythéistes d'Europe, on devrait dire ça davantage, mais je veux dire païen, juste pour que ça se fasse plus court, parce que païens, c'est ceux qui sont pas chrétiens, je veux dire, les chrétiens dans les croisades appellent les musulmans des païens, puis ils sont monothéistes aussi, donc ça a aucun rapport, mais les religions polythéistes d'Europe, même s'ils n'étaient pas écrits sur papier nécessairement, ou bon, dans le cas des sagas, pas des sagas, mais de la religion scandinave, des fois on a des petits passages écrits en runes, mais très souvent, plus qu'autrement, c'est surtout des tombes, ou mettons, je sais pas, Ivar est passé par là, etc., même si on n'a pas vraiment de source écrite, ça veut pas dire que les rites et, dans le fond, les traditions ne perduraient pas dans le temps. Pour vous donner une idée, on a retrouvé un pétroglyphe, donc une pierre représentant, en fait, l'image d'une action, là, dans ce cas-ci, mythologique. On peut voir un homme tenant un marteau, un tantor, qui se bat contre un serpent gigantesque qui est Jörmungandr. Et ça, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Et Snorri Sturluson va nous dire exactement la même histoire, en tout cas, du moins, peut-être pas dans les... Il y a peut-être des variantes, hein, c'est ça mon point, ça peut avoir varié, mais règle générale, le même combat va avoir lieu au Ragnarok entre Thor et Jörmungandr, et ça, Snorri Sturluson va nous le laisser au 12e, 13e siècle. Donc, on peut voir que même si les religions polythéistes d'Europe et plein de religions polythéistes, je parle de l'Europe bien évidemment parce que c'est plus mon domaine, c'est dans quoi je me spécialise, mais je suis sûr que ça s'applique n'importe où dans le monde. La réalité étant que On a souvent cette impression en histoire quand on l'étudie, même les gens qui étudient pas l'histoire, que les gens dans le passé n'étaient que des brutes épaisses, sans la moindre cervelle, qui ne faisaient que taper et à subir ce qui leur arrivait sans se poser aucune question. Mais en réalité, il y a beaucoup d'anthropologues qui avancent justement hein, que en fait, pas de présence de livres, pas moyen d'écrire, les gens avaient sûrement une très bonne mémoire. Hein. C'est quelque chose que certains anthropologues avancent, et bien évidemment, je suis pas un expert, je ne suis pas un anthropologue, je n'ai pas étudié l'anthropologie, mais reste-t-il que les gens à l'époque devaient avoir une bonne mémoire, et il y a des jeux, dans le cas des sagas, pour empêcher que les sagas se modifient dans le temps, pour en donner quelques exemples. Le changement du rythme dans les vers des sagas fait en sorte que c'est difficile de la modifier, parce que si t'es en octasyllabe et que tu passes en dodécasyllabe dans le prochain paragraphe, c'est dur de modifier des fins de phrases ou des tournures de phrases, parce que si le rythme n'est pas respecté, il décale lui-même de façon naturelle dans la saga. Donc, si vous altérez, mettons, les premières phrases, déjà en octosyllabes, vous allez avoir un peu de difficulté, mais oubliez ça, ça suivra plus avec le reste, parce qu'après, ça change en dodécasyllabes, ça revient en octosyllabes, et ça change constamment. Donc, il y avait des mécanismes, tout ça pour dire, il y avait des mécanismes à l'époque pour se souvenir de ces rites-là. Mais là, bon, dans 10 minutes, je pense qu'on peut aborder le sujet, mais juste avant qu'on rentre sur quelques pratiques qui étaient faites à l'époque, du moins on pense, faut comprendre que c'est il y a des pratiques aussi qui est faites aujourd'hui. Beltane est encore fêté par des gens de partout dans le monde. C'est fêté par des gens qui sont encore de ces religions-là. Hein. Ces religions-là n'ont pas encore disparu. C'est des très faibles quantités de personnes, j'en suis conscient. Mais il y a un renouveau, je vais le dire dans le terme du paganisme, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe. Il y a un retour vers la spiritualité et il y a des gens qui célèbrent Beltane aujourd'hui. Et c'est tout à fait louable. Donc, juste pour vous dire qu'il y a certains, il y a des pratiques aujourd'hui puis il y a des pratiques à l'époque et les pratiques d'aujourd'hui souvent se basent sur les pratiques qu'on pense qui étaient faites à l'époque. Donc, sans plus attendre, eh bien, normalement, on parle toujours de ce qu'on appelle en anglais un bonfire, donc un feu de joie. Hein, on célèbre autour d'un grand feu, souvent on estime qu'il y avait des danses, qu'il y avait sûrement un buffet, une grande table, on estime qu'il y avait des festivités autour de l'arrivée de l'été, de l'arrivée des temps chauds, que l'hiver est enfin terminé. L'Encyclopédie Britannica, faut toujours prendre un peu avec des pincettes sales, là, mais c'est quelque chose que je vois récurrent. Chez les Celtes, aussi Beltane, on devait faire des offrandes, certes, ça c'est quelque chose qui est récurrent dans les fêtes religieuses, on fait des offrandes aux dieux. Dans le cas de la fête de mai, que ce soit Walpurgis ou Beltane, j'imagine, et les quelques lectures que j'ai faites là-dessus, qui encore une fois ne peuvent pas vraiment être scientifiques parce qu'on n'est pas sûr à 100%, mentionne que, ben, avec raison, hein, si c'est la saison qui va commencer des plantations, la saison où justement des amours, on va vouloir, tu sais, mais c'est le retour justement des cœurs, le retour des bourgeons, la vie, le renouveau. Donc, on devait faire sûrement des offrandes au dieu de la fertilité, au dieu de l'amour, au dieu de l'agriculture. Hein, on veut que les récoltes soient bonnes, on veut que ça soit une année fructueuse. Donc, on va être en bon terme avec les dieux et avoir une année propice. Mais, dans le cas de Beltane, chez les Celtes, il y avait aussi des offrandes qui étaient faites aux fées et aux sorcières. Parce qu'on imaginait, en fait, la culture de l'époque, supposément, bon, ben, on voulait justement, en fait, les fées étaient réputées pour être espiègles, de voler, par exemple, des choses qu'on possède à la maison, des biens comme la nourriture. Donc, on essayait de les apaiser avec des offrandes pour pas qu'elles viennent voler nos choses. Bon, là, et pour le point des sorcières, je vais être très honnête avec vous, le terme sorcière a tellement été réutilisé dans l'histoire. Est-ce que c'est les sorcières qu'on voit plus maléfiques? Est-ce que c'était des herboristes? J'en ai aucune idée. Donc, je sais pas c'est qui exactement ces sorcières. Là, pour être très honnête avec vous, mais on avait des offrandes aussi pour apaiser on va appeler ça les entités spirituelles plus espiègles. Je trouve ça se dit bien comme ça. Donc, des offrandes, rien de bien surprenant dans n'importe quelle religion, surtout les anciennes religions polythéistes, les offrandes étaient de mise. Et là, je vais mettre une paire de parenthèses. Quand on a offrandes et religions païennes, on a souvent cette espèce de vision hollywoodienne de sacrifice humain. C'est sûr, je suis pas un expert pour tous les peuples européens, loin de là, et encore moins tous les peuples, aussi magnifiques soient-ils, de cette belle planète qui est la nôtre. Mais les sacrifices humains chez les Celtes, je crois que ça a été prouvé que c'était faux, ou que c'était très 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 rare. On a longtemps cru que c'était le cas, mais chez les Celtes, il n'y a pas vraiment de sacrifices humains. Chez les Scandinaves, chez les Germains, il y en a, mais c'est extrêmement rare et il y avait la notion que la personne devait être consentante, hein, les dieux ne voulaient pas le sacrifice de quelqu'un qui n'était pas consentant à aller les rejoindre, mais bon, ce qui est écrit dans les livres et comment on pratique une religion, c'est deux choses bien différentes, je suis pas tellement certain que les gens étaient consentants à se faire sacrifier, moi j'ai plus l'impression que c'était des esclaves qu'on envoyait, mais c'était extrêmement rare pour ces deux peuples-là, pour le reste, j'en ai vraiment aucune idée, je m'en excuse. Mais donc, des offrandes, souvent on offre de la nourriture, on offre justement du bétail, on demande, il y a une transaction, les religions polythéistes fonctionnent beaucoup comme ça, on offre quelque chose, des métaux précieux, une arme, dépendamment à quel dieu on s'adresse, et en échange de cette offrande, on reçoit quelque chose, c'est très transactionnel. Donc, il y a cette idée-là, à Beltane, on fait des offrandes aux dieux pour avoir de bonnes récoltes, pour peut-être trouver l'amour, pour le beau temps, pour un bétail abondant, pour des récoltes fructueuses, vous voyez le genre. Maintenant, Beltane, le terme, d'où c'est que ça vient? Là, c'est là que ça devient touchy, puis qu'on commence à rentrer dans un peu dans un domaine où on estime, mais selon, encore une fois, l'Encyclopédie Britannica, il semblerait que des linguistes ont été capables de faire monter le terme Beltane, dans le fond, au dieu Belenus, qui est un dieu qui était, en fait, un des dieux les plus omnipotents pas omnipotent, c'est pas le terme de sous-cherche, mais le plus populaire, excusez-moi, le plus populaire de la religion celtique de l'époque. D'ailleurs, si vous avez lu Astérix, Belenus, c'est quelque chose que vous avez entendu à plusieurs reprises, sûrement avec Toutatis, mais je connais mal la religion celtique, donc je sais pas vraiment qui est Belenus et Toutatis. Mais Belenus serait le dieu de l'agriculture, des bergers, éventuellement du pâturage. Donc, on fait lien entre la fête Beltane, qui justement s'oriente vers les récoltes, le bétail, l'abondance, la vie, et le dieu Belenus, donc Belenus. Donc, on peut voir que cette corrélation au niveau étymologique, et en ancien irlandais, Tene, donc T-E-N-E, je suis désolé, je le prononce probablement très mal, le gaélique est extrêmement difficile à prononcer. Si vous avez la chance, allez voir sur YouTube comment les gens parlent gaélique, c'est extrêmement impressionnant. Mais, donc je m'excuse si je le prononce croche, mais Tene, qui signifie feu. Donc, on peut voir le rapprochement entre Beltane, qui s'écrit T-A-N-E, et Belenus et Tene, dans le fond T-E-N-E, et la raison pourquoi cette fête était célébrée, en fait caractérisée par ce grand feu de joie où les gens se réunissent et demandent aux dieux de bonnes récoltes, un bétail abondant, etc. Donc, mes chers pastourelles, mes chers pastoureaux, c'est déjà terminé, une petite introduction à cette fameuse journée qui est importante aujourd'hui, une fête que les peuples ont du nord de l'Europe ont longtemps vénéré, mais je le rappelle, c'est pas exclusif à ces peuples-là, le rythme des saisons a influencé l'humanité, et c'est des fêtes qu'on peut sûrement faire des parallèles avec plusieurs fêtes, ce que je veux dire, à travers le monde. Alors, mes chers pastourelles, mes chers pastoureaux, peu importe d'où vous venez, peu importe la magnifique culture à laquelle vous appartenez, mes chers amis, je lève mon verre, et je demande aux dieux, en cette première journée du mois de mai, de vous apporter richesse, abondance, amour et succès durant l'été qui arrive à grands pas. Mes chers pastourelles, chers pastoureaux, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, joyeuse Beltane.
Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.